Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
En tout cas, ma petite voix justement intérieure qui me parlait de plus en plus fort à l'oreille. Au début, elle chuchotait et puis après, elle commençait à me hurler dessus. Elle me disait, toi aussi, tu peux faire quelque chose qui fasse sens pour toi. Qu'est-ce que t'as à perdre en vrai? Rien. Tu te dis, bah ouais, après tout, s'ils y sont arrivés, pourquoi pas moi? En tout cas, je vais essayer. J'ai la chance d'avoir pu préserver un équilibre familial qui aurait pu voler en éclats, honnêtement, parce que quand tu changes de vie comme ça, ton équilibre familial en prend un coup, hein. Enfin, inévitablement. Quand j'avais ETF1 et Bliss, franchement, c'était chaud. Avec mes enfants, c'était chaud. Avec mon mec, c'était chaud.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Clémentine Gallet. Son nom vous est peut-être encore inconnu, mais son parcours, lui, gagne clairement à être connu. Clémentine aime relever les défis et écouter ses envies. Elle a travaillé sur les plus grands plateaux de cinéma avant de parcourir le monde pour présenter une émission sur la chaîne Voyage. Elle a été propulsée directrice de casting chez M6 pour l'émission Top Chef, sans aucune expérience. Et elle est aujourd'hui l'une des plus influentes podcasteuses dans l'univers de la maternité. Vous l'aurez reconnue, Clémentine est la créatrice de Bliss Stories, le podcast décomplexé où on parle grossesse et accouchement sans filtre. Mère de 2 enfants, Clémentine a créé une vraie communauté bienveillante autour de cette thématique si forte pour toutes les mamans. Je vous invite dans l'univers de Clémentine Gallet. Bonjour Clémentine.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît?
Ah ouais, direct, on attaque avec l'objet.
Okay. On attaque direct.
Alors, l'objet, c'est plus un objet symbolique par rapport à un film que j'aime d'amour et qui me suit depuis que je suis toute petite, en fait. Donc, ce que je t'ai montré, c'est un gros magnète que j'ai sur mon frigo avec le personnage de Dorothy du Magicien d'Oz, sur lequel il y a écrit « Toto, I don't think we're in Kansas anymore ». Bon. C'est une des phrases du film, mais il y en a plein d'autres. En fait, Le Magicien d'Oz, c'est un film pour moi qui me représente un peu, enfin en tout cas qui me suit depuis vraiment ma plus tendre enfance, que j'ai dû voir 300 fois, que j'ai eu le bonheur de montrer à mes enfants il n'y a pas longtemps, et qui est pour moi un film, c'est un film pour enfants a priori, à la base, mais qui est bourré de seconde, voire de troisième, quatrième lecture, en fait, pour les adultes, et qui pour moi était très inspirant, qui a aussi comme un cocon dans lequel j'aime bien me blottir de temps en temps.
Pourquoi ça t'inspire?
Bah, je sais pas si tu le connais,
je
si l'ai tu
vu,
l'as
mais
vu
il y a très 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 longtemps.
Bon bah c'est l'histoire de cette jeune fille Dorothy qui habite au Kansas avec ses grands-parents et qui rêve d'ailleurs. Voilà, elle rêve de ce qui se passe au-delà de l'arc-en-ciel. Voilà, donc elle dit elle trouve que sa vie est un peu naze en fait dans son ranch au Kansas, que bon, elle nourrit les cochons et le bétail, mais elle a envie d'autre chose, elle a d'autres ambitions. Et elle rêve d'autre chose. Et puis un jour, il y a un ouragan au Kansas et sa maison s'envole. Et sa maison s'envole et atterrit dans le merveilleux monde d'Oz, qui est un monde en couleur, alors que le Kansas était en noir et blanc. Et là, elle va découvrir le merveilleux monde d'Oz, ses habitants, ses rêves, ses espoirs. Et en fait, dans ce monde d'Oz, tout est possible. Il y a un truc de découverte, de rêve, voilà, de fantasme où elle se dit ça va être génial. Et puis en fait, elle se rend compte que c'est pas si bien que ça, le monde d'Oz, et que finalement, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc, d'ailleurs, une autre des grandes phrases de ce film, c'est « There's no place like home ». Et donc, finalement, elle fait tout pour revenir chez elle au Kansas, et c'est le magicien d'Oz qui peut l'y emmener. Voilà, je te le résume. Donc, pendant tout son séjour dans le pays d'Oz, elle va faire des rencontres très fortes, voilà, d'amitié, de haine. Elle va rencontrer la sorcière et puis tous ses copains à elle. Bref, c'est un film sur la famille, sur l'amitié.
Le recentrage. Ce
dont tu peux rêver ailleurs et ce qu'en fait tu as chez toi. Et souvent, c'est marrant parce que c'est souvent une phrase que je me dis, there's no place like home. Je trouve que c'est, il y a rien de plus vrai que ça en fait, que ce que tu construis finalement dans ton foyer, avec tes potes, avec ta famille, avec tes enfants. Finalement, c'est ça l'essentiel en fait, tu vois. Après, tu peux rêver toujours de ce qu'il y a au-delà de l'arc-en-ciel. Forcément, c'est ça qui aussi te motive.
C'est quoi pour toi, ce qu'il y a au-dessus, enfin, dans ta perception à toi, c'est quoi ce qu'il y a au-delà de l'arc-en-ciel?
Moi, ça a été plein de choses au cours de ma vie. C'est vrai que moi, je suis une éternelle insatisfaite. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que ça me représente bien. C'est parce que Dorothy, elle est pas contente de la vie qu'elle a, alors qu'en fait, sa vie, elle est géniale, tu vois. Et moi, je te dis pas que c'est à ce niveau-là, mais c'est vrai que je suis un peu une éternelle insatisfaite. En tout cas, j'ai toujours envie de plus, plus, plus. Je suis un peu Madame Plus, tu vois. Donc, quand j'ai le super boulot, je veux encore mieux. Quand j'ai les super enfants, j'en veux un autre. Quand j'ai la super vie, je veux faire plus de voyages, plus de ci, plus de ça. Bon, tu vois. Et bon, c'est aussi un moteur dans ma vie, mais parfois c'est fatigant, tu sais, parfois tu t'auto-fatigues, tu te dis non mais c'est bon, voilà, profite quoi, ouais. Tu vois. Donc voilà, c'est des petits mantras comme ça de vie que j'essaie de me répéter, et c'est vrai que ce film en contient pas mal. Finalement, sous ses airs naïfs, en fait, il dit plein de choses.
Et qui était la petite Clémentine?
La petite Clémentine, écoute, c'était une petite fille sans histoire. C'était une grande sœur, surtout.
Ouais. Vous êtes une fratrie de quatre, c'est
ouais,
ça?
Oui, on est quatre. En fait, pendant très longtemps, on a été deux. Donc, j'ai un petit frère qui a... Enfin, un petit frère, il déteste quand je dis ça. C'est mon petit frère. Il a 38 ans.
Donc, 2 ans de moins que toi?
Voilà, 2 ans et demi de moins que moi. Avec qui on est resté un binôme, en fait, pendant quasiment 10 ans. Mm-hmm. Et puis un jour, mes parents ont eu envie de faire un petit troisième. Et en fait, c'était des jumelles. Donc,
des vraies ou des fausses?
Des fausses. Donc, on est passé de 2 à 4. Et ça a été probablement l'expérience la plus merveilleuse que j'ai eue à vivre en tant que petite fille. Vraiment. Et donc, voilà, je me suis retrouvée grande sœur d'une fratrie comme ça de 4. Et c'était formidable.
Ta maman t'a beaucoup sollicité du coup quand t'étais petite?
Ouais, en fait, elle ne m'a pas sollicité, comment dire, ça s'est fait naturellement, ouais. Si tu veux.
T'avais envie.
Ouais, j'avais envie, et puis c'est vrai que la pauvre, la première année, en tout cas les premiers mois de vie de mes sœurs, mon père était parti en tournage.
D'accord.
Il est parti, je crois qu'elles avaient une semaine ou 15 jours. Et il pouvait pas faire autrement. Enfin, c'était genre vraiment l'opportunité de carrière, tu vois, où tu ne peux pas dire non. Et donc, il est parti faire le tour du monde pour un film. Et il s'était mis d'accord, évidemment. Tu vois, ça avait été anticipé. Mais n'empêche que ma mère,
elle s'est
retrouvée
toute seule. C'est quand même chaud quand tu te retrouves avec 4 enfants
avec
et 2 jumelles.
Rétrospectivement, franchement, je sais pas comment elle a fait. Ouais. C'est une warrior, quoi. Ouais. Mais elle l'a fait parce que c'était comme ça. Et puis à l'époque, tu te posais moins de questions. Et puis elle était mère au foyer. Donc, elle s'est consacrée à nous. Ouais. Mais évidemment, par la force des choses, j'ai mis la main à la pâte. Mais parce que aussi, j'adorais ça. Enfin, ouais. Voilà, c'était un plaisir de m'en occuper.
Et c'était quoi tes jeux en tant que petite fille?
Moi, je faisais beaucoup de théâtre.
Ouais.
Beaucoup de théâtre, beaucoup de... voilà, de petites mises en scène, beaucoup de spectacles, ouais. Globalement. On faisait beaucoup de spectacles, on se déguisait énormément. Enfin, je dis on, pas du tout avec mon frère qui détestait ça, mais avec mes cousines. Mes copines, ouais, ouais, mes cousines, mes copines. Moi, je me changeais 15 fois par jour. D'ailleurs, ma fille, vraiment... Elle a la même passion pour les déguisements et je dois dire que je la laisse totalement libre voilà, de s'exprimer et de changer de robe 10 fois par jour. Ça ne me pose aucun problème, je trouve ça génial. Et donc voilà, moi-même, j'ai fait ça beaucoup. À la campagne, on faisait beaucoup de petites représentations, de petits spectacles. C'est vrai que très tôt, j'ai fait ça, je mettais en scène... Justement, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, on était toute une tribu et j'adorais faire la metteuse en scène. Ouais, j'aimais bien.
Et tu te rêvais quoi ? Tu disais, quand je serais adulte, ça serait quoi mon métier ?
Alors, pendant un bout de temps, je pense que secrètement, je rêvais d'être comédienne, justement. Ouais. Mais j'étais beaucoup trop timide pour ça. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des petits spectacles en famille, tu vois, en terrain connu. Mais dès qu'il fallait monter sur une scène devant un public autre, ça me terrorisait. C'était un fantasme, je pense. Et puis sinon, très vite, j'ai voulu faire du cinéma, en fait. Enfin, très vite. Pas petite fille, hein, mais adolescente.
D'accord.
Voilà. Parce que mes parents sont des grands cinéphiles. Mon père a beaucoup travaillé dans le cinéma. Et donc, voilà, j'ai été élevée dans cette culture... des vieux films, voilà, des livres avec des photos d'Hollywood. C'était une envie.
Ouais. Donc, toi, c'était le cinéma, sachant que tu as grandi dans un univers de télévision.
Oui, mais je ne voulais pas faire comme mes parents.
Non.
parce que oui, effectivement, à l'âge où il a fallu choisir une voie, mon père faisait plus de cinéma, il faisait de la télé et ma maman aussi. C'était un milieu très familier pour moi. Quand je passais à leur bureau, je passais sur des plateaux en fait. Donc ça n'avait rien d'exotique, c'était limite banal, tu vois. Donc, je me disais, non mais moi, je veux voir plus grand, tu vois, dans mon côté, toujours plus. Je vais faire du cinéma, mais pas devant la caméra, derrière. Je vais participer, en fait, à la fabrication d'un film. Je trouvais que c'était... En tout cas, j'avais l'impression que c'était merveilleux. Et ça l'a été, hein, puisque j'ai...
Donc du coup, c'est comme ça que tu as commencé ta vie professionnelle.
Ouais, exactement. J'ai rencontré très vite en fait des gens qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont formée parce que ce qui est génial dans le cinéma, c'est que tu peux démarrer sans aucune formation ou presque et t'apprends sur le terrain, tu vois. Donc moi j'ai commencé comme ça à apporter des cafés, à faire des photocopies de scénarios. Je me souviens avoir fait des centaines, tu sais, de scénarios comme ça, que tu trouillotes, que tu relis, tu fais la belle présentation et puis tu distribues à toute l'équipe. Et puis, il y a des petites modifs après dans le scénario, donc il faut tout refaire. C'est pas grave. Enfin, moi, je faisais ça, c'était un peu un boulot un boulot ingrat, honnêtement. Quand t'es stagiaire, Cinoche, c'est vraiment des tâches pas fun. Mais moi, rien que de baigner dans cette ambiance d'équipe de tournage, ça m'allait en fait.
Et au fur et à mesure, donc ta grotte a grandi les étapes. Jusqu'à quel poste ?
Eh bien, jusqu'à être assistante du réalisateur. Mm-hmm. Parce qu'en général, sur un tournage, tu as un premier assistant qui est vraiment le chef d'orchestre de toute l'équipe, donc qui est le référent de tous les corps de métier. Et puis, ce premier assistant a un autre assistant et puis des stagiaires. Voilà. Donc, moi, j'étais seconde assistante mise en scène. Donc, quand t'es seconde, tu t'occupes de tout ce qui est feuilles de service. Les feuilles de service, c'est les prévisions quotidiennes que tu distribues à tout le monde. La figuration, les horaires, si tu veux, des comédiens. Telle actrice, il faut qu'elle soit là à telle heure pour telle scène, avec cette robe, avec ce maquillage, avec cet accessoire, tu vois, et tu coordonnes tout ça. Donc, t'es beaucoup au contact des comédiens et des loges, maquillage, coiffure, costume. Alors, moi, c'était, c'est vrai que c'est des endroits totalement magiques.
Ouais, on voit les étoiles dans tes yeux quand
enfin surtout quand tu bosses avec des comédiens, des comédiennes que tu admires et que tu les vois vraiment dans leur plus grande pas intimité, j'exagère, mais quand même, tu les vois arriver le matin, pas maquillés, pas coiffés, vraiment au naturel. Et puis, tu les vois prendre vie dans leur personnage, se faire maquiller, se faire coiffer, choisir leur costume. Bon, et puis quand c'est des films d'époque, évidemment, c'est encore plus magique. Donc voilà, moi, j'ai adoré ça, être au contact de ces grandes figures du cinéma et puis de ces techniciens qui sont... Enfin voilà, une équipe de tournage, c'est merveilleux. C'est toute une équipe au profit d'une œuvre. Mm-hmm. Voilà, et c'est... Moi, j'ai adoré faire partie de ces aventures, ouais.
Mais un jour, tu t'es dit stop à cette vie-là. Mm-hmm. C'était au moment où t'es partie à New York.
C'était avant, en fait. C'était juste avant. Ouais, je me suis dit stop parce que c'est quand même une vie très nomade. Mmh. Et moi, j'avais un peu envie de me poser quand même. Ouais. J'avais envie...
T'avais quel âge ?
Eh bien, j'avais 24. Non, 25. 25. Parce que j'ai rencontré donc l'homme de ma vie sur un des derniers tournages que j'ai fait. Et après, effectivement, cette rencontre plus... Le fait que ça faisait déjà presque 5 ans en fait, que je faisais ça, j'ai eu envie de passer à autre chose. Ouais.
C'était quoi les signaux qui te disaient j'ai envie, donc tu as l'envie de plus de stabilité de plus être tout le temps sur les routes.
Ouais.
Mais est-ce que ton corps t'a dit des choses particulières ou il y a juste ton cerveau qui t'a dit non mais stop
Non, en fait, j'étais psychologiquement, ça allait très bien. Ouais. C'était un boulot qui était réjouissant, qui était passionnant, qui était, voilà, tous les jours étaient différents. Moi, c'est ça qui m'animait bien aussi. Non, mais moi, j'avais envie de construire une famille.
D'accord.
Tout simplement, ouais. En fait. C'était plus le côté perso qui m'a guidée, en fait, vers un métier un peu plus sédentaire, si je puis dire. En tout cas, moins dispersé, parce que quand tu pars en tournage avec une équipe différente tous les 6 mois, t'as pas beaucoup de repères. Et moi, j'avais besoin d'un peu de stabilité à cette époque-là, en tout cas. Et voilà, donc effectivement, je suis partie à New York faire un peu un break de cinéma. Et du coup, j'ai découvert la production plutôt télé.
Okay.
Voilà, donc quand tu bosses en prod... Ouais, t'es plus dans un bureau, quoi, devant un ordinateur.
Et là, mine de rien, c'était quand même un challenge parce que tu venais de rencontrer l'homme de ta vie. Bon, je ne sais pas si à ce moment-là, tu savais que c'était déjà l'homme de ta vie.
Probablement pas. En tout cas, pas à ce point-là, tu vois. Et à la fois, c'était un bon moyen de nous challenger, de se séparer comme ça, à peine rencontrés.
Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ?
Ça faisait 3 mois.
D'accord, ouais.
Tu vois, c'était vraiment tout frais. Et puisqu'on s'est rencontrés l'été, et moi je partais à la rentrée, tu vois, c'était, je démarrais ma rentrée scolaire, entre guillemets, ouais. Comme ça, en partant à New York. Et donc je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais en fait, moi, c'est un projet que j'ai organisé depuis trop longtemps pour l'abandonner pour toi, je suis désolée. Même si vraiment, je sens qu'il se passe un truc entre nous. Mm. Mais. Voilà, si vraiment c'est si fort qu'on le croit, eh bien, ça tiendra à la distance. Ouais. C'est pas grave. Voilà.
Et t'avais déjà trouvé ton job avant de déménager à New York ?
Oui, j'avais en fait trouvé un stage dans une boîte de prod. Donc, je redémarrais vraiment
En bas échelon, et puis sans gagner d'argent.
Stagiaire.
Enfin...
Oui, enfin, j'étais défrayée, on va dire. Ouais. Tu vois, mais c'était 3 fois rien. Non, je bossais à côté.
D'accord.
Je bossais, j'étais serveuse dans un resto français dans West Village et c'était ma source de revenus principale. Ouais, okay.
Ouais, donc tu t'es quand même vraiment donné les moyens de te dire j'ai un rêve, c'est d'aller à New York couper.
Ça a un prix hein, parce que à New York la vie est hors de prix, les loyers laisse tomber. Donc, si tu veux te donner les moyens d'habiter plusieurs mois à New York, il faut avoir du budget.
Ouais.
Parce que tu es très, très vite prise par la réalité du coût de la vie là-bas. Le moindre resto coûte hyper cher, la moindre sortie aussi, tout est hors de prix. Donc, ouais, je bossais dans ce resto et ça payait mon loyer. En fait,
d'accord.
Tu vois.
Et comment a vécu ton entourage ce départ à New York ?
Ah bah très bien. Ouais, mes parents m'ont toujours soutenu. Oui.
Il y a pas des gens qui t'ont dit mais t'es complètement taré, t'avais un super, c'était le job de tes rêves et en fait tu...
Non, parce que tu sais j'étais intermittente.
Ouais.
Quand t'es dans ces métiers-là, t'es intermittente et en fait les joies de l'intermittence, puisqu'il y en a, heureusement, c'est ça, c'est la liberté. Ouais. C'est-à-dire que tu peux couper pendant quelques mois et puis j'aurais très bien pu revenir en France au bout d'un an et repartir sur des tournages. Rien ne l'empêchait, si tu veux. J'ai pas eu à faire de rupture conventionnelle ou à démissionner. Ouais. C'est des contrats comme ça, coup par coup. Donc, il n'y avait pas vraiment de danger, tu vois.
D'accord.
J'ai jamais fait de choses trop inconsidérées. Moi, je suis beaucoup trop raisonnable pour ça. Je me donne les moyens de faire ce que je veux faire, mais sans partir du jour au lendemain en mode « allez, je plaque tout ».
J'en ai marre, ouais. Ok.
J'ai jamais pu faire ça non plus, parce qu'il y a un moment aussi, financièrement, tu peux pas, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Et donc là, tu rentres en France.
Donc, je rentre en France et là, je me dis « bon, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors déjà, mon couple avait...
Ça avait tenu,
elle est tenue. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Et je me suis dit, je ne vais pas retourner sur des plateaux de cinéma et je vais plutôt explorer le milieu de la production. Et à New York, en fait, j'avais tourné un pilote, une émission pilote que j'avais moi-même écrite et réalisée. Parce que le producteur avec qui je travaillais avait trouvé l'idée chouette et il m'avait dit « Ok, vas-y, fais-le, tiens, je te file une caméra, vas-y, va au bout du truc. » Donc j'avais un pilote et c'était une émission du coup de voyage, de bonnes adresses, de bons plans, tout ça. Et j'avais quand même ce petit DVD sous le bras, tu vois, que j'ai envoyé à des chaînes. Et la chaîne Voyage, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, ou en tout cas...
Si, elle existe encore, hein. Je la regarde de temps en temps pour m'endormir le soir. Ouais. En tout cas, sur la Freebox, elle est disponible.
Ah d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que j'en entends plus trop parler. Je crois qu'ils sont un peu en baisse de régime. Mais bon, en tout cas, tant mieux si elle existe toujours. Et cette chaîne, en fait, m'a contactée un jour parce que je leur avais envoyé mon DVD et ils cherchaient des nanas pour incarner une nouvelle émission de voyage, justement, dans le monde entier. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Donc, c'était super parce que ça me permettait quand même d'utiliser ce que j'avais fait à New York et de découvrir autre chose. Alors là, pour le coup, je me suis retrouvée devant la caméra, ce qui n'était pas du tout prévu.
Ça t'a plu ?
Oui, ça m'a plu. C'était un exercice pas facile, honnêtement. Mais là, en tout cas, dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'était très cool. Surtout que j'avais... une position de journaliste qui va interviewer, si tu veux, des gens sur place. Donc, je n'étais pas l'animatrice face caméra avec son micro à lire un prompteur. Tu vois, ce n'était pas ça. Voilà, telle qu'était foutue l'émission, moi, ça me convenait. Et puis c'était surtout très sympa de voyager pour le boulot. Ouais. Enfin, tu vois,
le concept de stabilité, finalement...
alors c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté à ce moment-là. mais c'était éphémère. Je savais qu'il y avait... on a fait 9 émissions. Donc, 9 fois 52 minutes. On est parti 9 fois dans l'année, mais 3-4 jours, tu vois. C'était pas non plus...
Oui, ouais.
Voilà. Et j'ai adoré ça. Et puis là, du coup, après, j'ai été embauchée grâce à cette émission. Ah putain, attends, je n'ai plus la chronologie en tête. Non, c'était, pardon, je me mélange un peu les pinceaux. Avant de faire cette émission, j'avais déjà bossé un peu en prod chez MK2. Et après, j'ai fait l'émission de voyage. Et après, je suis rentrée vraiment dans une boîte de prod en fixe, si tu veux, en tant que chargée de prod. Donc là, je m'occupais des tournages, des budgets. Mais j'étais dans un bureau
sédentaire,
fixe, avec des horaires de bureau. Tu sais, c'est fou. Comme, en fait, il y a des gens qui rêvent justement de liberté, alors que ça fait des années qu'ils sont dans leur bureau avec leur ordinateur dans les yeux. Et puis, en fait, quand tu démarres par le côté, OK, freestyle, tous les jours sont différents, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de collègues vraiment fixes et tout. Et bien, finalement, moi, c'est ça dont j'avais envie, en fait. Et puis là, j'avais 30 ans, Donc, j'ai fait ça pendant quelques années.
Il y a eu une rencontre qui a été assez décisive dans ta vie, dans la télévision. Absolument. Une personne qui a cru en toi.
Oui,
plus
Sophie.
Plus que toi, tu ne croyais en toi d'ailleurs.
Oui, 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 absolument. Elle s'appelle Sophie. C'est une productrice de talent. Et c'est une fille qui marche à l'instinct. Voilà. Et qui a toujours eu un très bon instinct dans sa carrière. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que nos chemins se croisent. Et un jour, au détour d'une collaboration, mais sur des projets hyper différents, on a connecté, quoi. On a déjeuné ensemble. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, mais ce déjeuner, en fait, était un peu un entretien d'embauche.
Au moins, c'est bien, comme ça, tu n'avais pas le stress voilà. En y allant.
Absolument. C'était... Mais c'est vrai que rétrospectivement, je me suis dit, elle m'a posé quand même beaucoup de questions. Et on s'est hyper bien entendu, il y a eu un vrai coup de foudre humain. Et deux jours après, elle me disait, mais tu veux pas venir avec moi chez M6, je démarre une nouvelle émission là, de cuisine. Bon, je sais pas trop ce que ça va être, mais je sens que tu serais parfaite en directrice de casting. Et moi, je lui dis, mais quoi? Mais de quoi tu me parles? Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, là, tu vois, je fais des tableaux Excel avec des budgets dedans. Enfin, je suis pas du tout... Je sais même pas ce que c'est, en fait, en quoi ça consiste. Et elle me dit, si, mais t'inquiète, tu vas faire ça très bien. Viens avec moi, je t'assure, on va se marrer. Et je l'ai suivie, car je suis aussi une instinctive. Oui, ouais. J'écoute ma petite voix. Et j'ai bien fait, puisque donc c'était l'émission Top Chef qui démarrait, c'était la première saison. Et donc elle d'ailleurs, c'était son premier job en tant que productrice, vraiment, en tant que capitaine du navire. Et moi, du coup, c'était mon premier job en tant que directrice de casting. Donc rétrospectivement, encore une fois, c'était de l'inconscience totale de faire ça.
T'avais des choses à perdre ?
Rien.
Non.
J'avais rien à perdre. Mais ça, c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est souvent une réflexion que je me fais. Qu'est-ce que tu as à perdre en vrai ? Rien. Encore une fois, j'étais dans des jobs d'intermittence à me chercher un peu. La prod, c'était sympa, mais c'était pas non plus ma passion dans la vie, tu vois. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant de bosser surtout avec une fille qui t'inspire, tu vois, que tu as envie de suivre dans son aventure ? Donc finalement, peu importe ce qu'elle me propose de faire, je vais apprendre en fait à ses côtés. Je sens qu'il va se passer des choses intéressantes.
Il y a eu des freins dans ta tête où il y a un moment, tu as quand même eu un petit moment d'hésitation ?
Franchement, non. Aucun. J'y suis allée vraiment avec le sourire parce qu'elle, elle m'a entraînée aussi. Ouais. Elle m'a entraînée là-dedans, elle m'a donné confiance. Elle m'a dit, mais t'inquiète. Ça va bien se passer.
Le soir, t'es rentrée, t'as été voir ton chéri, tu as dit « Ah, je vais devenir directrice de casting ».
Oui, alors lui, pareil, hein, il m'a toujours fait confiance. J'ai toujours eu des gens autour de moi très bienveillants qui m'ont toujours dit « Mais ouais, t'as raison, vas-y, explore, essaye, tu verras bien ouais. ». Et puis, je pense qu'aussi, quand moi, j'envoie le signal de quelque chose d'excitant et d'enthousiasmant, les gens autour de moi me disent « Bah, cool, si, ça a l'air ça a l'air de te réjouir, donc vas-y. » Et donc, ce casting de Top Chef, ça a été une expérience formidable. D'abord parce que j'ai découvert ce métier qui était vraiment fait pour moi, effectivement. Et j'ai découvert, on a infiltré en plus tous ces milieux de la grande gastronomie, donc ça c'était génial. Et j'ai travaillé avec cette fille qui est Sophie, qui était vraiment un soleil, quoi. Ouais. Enfin, tu sais, quand tu bosses avec des soleils, c'est pas mal, hein. La vie est plus jolie.
Ouais.
Hein. Donc c'est
quoi que tu fasses, t'as le sourire le matin en arrivant.
Ah ouais. Tu te poses pas de questions.
Ouais.
Même si c'est dur, même si les horaires sont déments, même si tu fais plus que ça pendant 6 mois, c'est pas grave. Ouais. Tu t'éclates au boulot, tu t'apprends, tu t'enrichis. Tu fabriques une nouvelle émission. C'est chouette, franchement.
Et puis, j'imagine que vous avez dû être hyper heureux de voir le succès que ça a rencontré.
Bah ouais, évidemment. Bah, franchement, j'ai eu du bol parce que toutes les émissions n'ont pas ce destin-là.
Ouais.
Et là, c'est vrai que travailler sur la première saison d'une émission comme celle-là, c'est merveilleux. Parce que certes, on a bien essuyé les plâtres. Hein, ça a été très compliqué à mettre en place. Mais quel beau résultat. Ouais. Et puis, c'était la première fois, finalement, qu'on mettait en lumière ces jeunes chefs qui n'avaient aucune visibilité à l'époque. Souvenons-nous.
Ah ben, c'est clair.
C'était il y a donc 9 ans. Ouais. Mais les chefs, ils étaient en cuisine.
Ouais.
C'était pas du tout, ils n'avaient pas du tout le sex appeal et le glamour. Stars, et il n'y avait pas du tout le buzz qu'il y a autour d'eux aujourd'hui. Donc, nous, ils nous regardaient avec des grands yeux, genre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute à la télé, tu vois? Et donc, il y a eu un gros boulot de conviction et de vraiment de les sortir de leur fourneau pour les mettre devant les caméras et leur dire, mais si, regarde ce que tu fais de tes mains, regarde la personnalité que tu as, regarde ce que tu peux transmettre aux téléspectateurs. Nous, c'est ça qu'on a envie de voir.
Donner l'envie à des talents de se révéler.
Exactement. Mm. Donc, on leur disait, donne envie, mais nous aussi, il fallait qu'on leur donne envie de nous suivre, quoi, tu vois. Donc, et ça, ça a été très fort. Et moi, je me suis découverte plutôt bonne dans ce métier, en tout cas, à réussir à convaincre, à réussir à embarquer comme ça tout un tas de gens. Et toute une équipe finalement de.
Ça, c'était
de
le jury. Toi, tu dans ton casting, tu avais évidemment les candidats, mais il y avait le jury également.
Oui, il y avait le jury aussi à trouver. Alors moi, je m'occupais pas spécifiquement du jury. Ouais. J'avais trouvé quelqu'un qui s'occupait du jury parce qu'elle avait un carnet d'adresses. Ouais. C'était Aurélie Chéniaud qui est aujourd'hui d'ailleurs fait des émissions de télé sur Teva, je crois, et qui a beaucoup de talent et qui était critique gastro en fait à l'époque. Et je connaissais Aurélie et je lui ai dit, écoute, on démarre un nouveau truc là, c'est pour toi. Toi qui as un carnet d'adresses dingue, viens avec nous dans l'équipe. Il faut qu'on trouve des chefs pour constituer ce jury incroyable qui va juger ces jeunes chefs. Et donc, elle est venue, elle a intégré l'équipe et puis c'est avec elle qu'on a fait le casting du jury.
Super. Ouais. Donc, tu as fait combien de saisons de Top Chef?
Ah, qu'une.
Qu'une seule, d'accord.
Ah oui, moi, je suis spécialisée dans l'essuyage de plâtre.
Ok.
C'est ça qui m'excite à la fois.
D'accord.
Une fois que c'est trop rodé, je m'ennuie.
Ok.
Voilà.
Donc, besoin de nouveautés.
Oui.
Donc, finalement, après, tu pars chez TF1.
Oui, alors, je suis restée quand même un peu avec productrice Sophie chez M6. Et après, on a été ailleurs, d'ailleurs, dans une autre boîte. Et j'ai été débauchée par TF1 pendant mon deuxième congé mat.
D'accord.
Donc j'avais 32 ans, 33 ans. Ma fille était toute petite. C'était l'été 2013. Et là, j'avais des coups de fil de TF1 qui me disaient... On aimerait bien une directrice de casting en fixe en fait chez nous. C'était un poste qui n'existait pas à l'époque. Et en fait, moi, j'avais bossé un peu pour eux quelques mois auparavant sur le Bachelor, le casting du Bachelor. Très très compliqué ce casting. Ah bah ouais, parce que pour trouver le Bachelor, je t'explique.
Ah
pas,
oui,
c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Et il se trouve que vraiment par coup de bol. Enfin, après, tu me diras, il n'y a pas que de la chance, mais il se trouve que j'avais trouvé le Bachelor et donc il s'était souvenu de moi comme étant la fille qui a trouvé le Bachelor. Et donc, il s'était dit, bon, peut-être qu'elle serait bien pour diriger en fait tout le pôle casting chez nous. Et j'ai accepté. Et donc, j'ai intégré TF1 Productions en novembre 2013. Voilà, et là c'était encore.
C'était quand même un challenge quand t'avais un tout petit bébé, enfin le deuxième
c'était
en plus.
C'était de la folie.
Ils ont combien de temps d'écart tes enfants?
Ils ont même pas 2 ans d'écart.
D'accord, ouais.
Je te laisse imaginer dans quel état de fatigue j'étais. C'est-à-dire que ma fille avait 4 mois, je venais de la mettre à la crèche, c'était un crève-cœur. Et à la fois, ce nouveau job était ultra excitant, c'était une opportunité de dingue. Intégrer ce grand groupe qui était F1, franchement, pour moi, c'était une très très belle aventure qui se profilait. Mais c'est vrai que ça voulait dire commencer une année avec une toute petite fille, un petit garçon qui avait quand même à peine 2 ans. Donc, nouvelle organisation militaire, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de pression professionnelle et familiale, hein, on ne va pas se mentir. Enfin, c'était Ouais, c'était une première année très compliquée.
Il y a eu des moments où tu t'es dit j'ai fait une connerie, ou dans des engueulades, ton mari, ton chéri, parce que vous n'êtes pas mariés, t'as dit mais pourquoi t'as fait ça ?
En fait, on se l'est jamais dit comme ça. En fait, sur le moment, j'étais dans l'œil du cyclone.
Ouais.
Vraiment. J'avais aucun recul. J'avançais tel un bon petit soldat, encore une fois, vraiment en me disant bon, bah voilà.
Sans te poser de questions.
C'est comme ça, faut le faire. T'as choisi ce métier, t'as deux enfants, c'est génial, t'as un métier génial, ok, vas-y, fonce. Mais c'est vrai que j'y ai laissé un peu des plumes, de fatigue, d'épuisement. Bon, donc la première année a été très rock'n'roll. Franchement, un des éléments salvateurs de cette année, ça a été que j'ai fini par sortir ma fille de la crèche,
ouais,
qui était malade, vraiment à répétition. C'était horrible. Et j'ai embauché une nounou.
D'accord.
Donc, je me suis saignée. Mais vraiment, c'était un investissement. J'ai jamais payé autant. cette partie-là de notre budget n'a jamais été aussi importante. Mais en fait, ça a été mon salut.
Ouais, parce que tu peux dormir, un bébé malade, c'est des nuits...
Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'en la sortant de la crèche, elle n'était plus malade.
Ouais.
Et du coup, j'avais cette femme qui venait à la maison la garder toute la journée, qui gérait... le linge, ouais, la bouffe, les bains, tout, tu vois.
Ouais.
Et du coup, ça, c'était une deuxième maman, tu vois, quelque part. Et bon, j'ai pas pu me la payer très longtemps, mais je me la suis payée un an et demi, je crois. Le temps de souffler, respirer, en fait, tu vois. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais continué. Mais oui, disons que... intégrer TF1, c'était un merveilleux, c'était une étape professionnellement géniale, mais ça implique toute l'exigence que nécessite un poste comme celui-là.
Ouais. Parce que c'était, comme tu disais, c'était une création de poste,
ouais,
donc tout à fabriquer, construire.
Voilà.
Après, tu as eu une équipe.
Voilà, après, j'ai embauché des équipes. Sur chaque émission, en fait, j'avais une équipe de casteurs. Mais qu'il fallait recruter, former, manager, voilà. Mais bon, écoute, c'était au final, une fois que j'ai trouvé mon rythme,
ouais,
tout roulait.
Ça roulait, ouais.
Ouais, 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 bien sûr.
Mais un jour, tu t'es dit, j'ai potentiellement... Donc la chance que tu as eue avec ce job, c'est d'intégrer plein de métiers différents, de suivre des métiers, de découvrir notamment les entrepreneurs,
oui,
et la maternité.
Oui, oui, oui. Mais en fait, le casting, ce qui est merveilleux quand tu fais du casting, c'est que selon le programme qu'on te commande, bah, tu vas fouiller dans tel ou tel domaine. Mmh. Alors évidemment, quand c'est de la télé-réalité, tu vas chercher des célibataires. Mais quand c'est une émission de cuisine, bah, tu découvres le milieu des chefs. Mmh. Quand tu fais une émission sur les entrepreneurs, tu découvres les entrepreneurs. Et quand on te commande une émission sur les sages-femmes, tu découvres l'univers des sages-femmes. Donc... moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'infiltrer, entre guillemets, comme ça, tout un tas d'univers et de m'en nourrir. Mm. Et c'est vrai que c'est tombé... En fait, tout ça a coïncidé avec la maturation de... en tout cas, ma petite voix, ouais, justement, intérieure, qui me parlait de plus en plus fort à l'oreille. Au début, elle chuchotait et puis après, elle
te disait quoi, cette petite voix,
me hurler dessus. Et ben, elle me disait, toi aussi, tu peux faire quelque chose qui fasse sens pour toi, en fait, qui soit quelque chose que tu fasses de toi-même,
ouais,
par toi-même, pour toi-même et pour les autres, évidemment. Mais il y avait un truc quand même qui partait de moi, qui partait de mon envie... ouais, de m'affranchir un peu de cette grosse structure qui était TF1 et d'en monter une plus petite structure.
Donc là, dans les envies, il y avait l'entrepreneuriat.
Voilà. Mais bon, l'entrepreneuriat, de manière très, très floue, très vaste. Autour de moi, j'ai que des intermittents, tu
d'accord,
sais. Enfin, j'ai très peu d'entrepreneurs.
Okay.
Je baigne un entourage d'intermittents du spectacle.
Ouais.
Donc, l'entrepreneuriat, effectivement, en fait, il est arrivé surtout par ma sœur, une de mes sœurs quand même, qui est l'exception de la famille, qui n'a pas choisi la voix de l'intermittence, et je l'en félicite, et qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social.
D'accord.
Et c'est vrai que grâce à elle, elle m'a beaucoup ouvert les yeux sur tout ce pan d'une vie professionnelle que j'ignorais. Et grâce à elle, c'est vrai que je me suis beaucoup nourrie d'expériences, de récits, de conférences autour de l'entrepreneuriat social, en l'occurrence. Et ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir tout ça. Elle-même est un soleil qui déplace des montagnes et qui a monté une structure incroyable qui s'appelle Ticket for Change, qui s'occupe de... justement de former des entrepreneurs sociaux. Et en fait, en gravitant à côté d'elle, tu vois, en me collant, en me frottant un peu à elle et en assistant à différentes conférences qu'elle a pu faire, ça m'a vachement aidée. Et elle-même m'a beaucoup aidée. Ça a été un peu mon coach. D'ailleurs, c'est trop mignon parce que c'est ma petite sœur. Tu vois, on a 10 ans d'écart. Et pourtant, à ce moment-là, c'est devenu vraiment ma coach. Ouais. Elle m'a énormément... stimuler, fait lire des trucs, envoyer des articles. On s'est fait des dîners, des discussions pendant des heures où elle me décryptait un peu, tu vois, tout le parcours et elle me donnait des outils très concrets pour pour échafauder un peu un plan, oui, en tout cas pour poser les bases d'une éventuelle reconversion.
D'accord.
Petit à petit, ça a mûri. En parallèle, j'ai découvert les podcasts.
Ouais.
Et du coup, tout ça s'est imbriqué de manière assez évidente. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais les podcasts. De l'autre côté, j'avais cette envie d'entreprendre. Et puis, le sujet de la maternité, pour le coup...
Les podcasts, t'écoutais quoi sur l'entrepreneuriat?
Justement, j'écoutais beaucoup... j'écoutais beaucoup de choses, beaucoup de podcasts anglo-saxons, en fait. Okay. En France, La Poudre, Génération XX, le podcast de Matt aussi,
Génération de Vie sur Self.
Des podcasts qui te tirent vers le haut, en fait.
Ouais.
Tu vois, c'est des podcasts qui te disent pourquoi pas toi, vraiment. D'ailleurs, tu portes bien
mon t-shirt.
ton t-shirt. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, un jour, tu te dis, après tout, s'ils y sont arrivés, pourquoi pas moi ? Et en tout cas, je vais essayer.
Ouais.
Et je n'ai rien à y perdre.
C'est ça.
Voilà.
Donc, en parallèle, donc, tu disais, il y a la maternité qui te trottait. Donc, tu étais maman déjà de vos enfants.
Oui. Mes enfants étaient déjà grands. Enfin, tu vois, j'avais plus de bébé dans les bras. Hein. Mais quand même, j'ai toujours été... Enfin, je suis entourée de copines, maman, de la génération de mes sœurs, donc qui a 10 ans de moins, qui aussi deviennent maman, et mon autre sœur, donc qui a un petit garçon de 2 ans et demi, donc qui a vraiment, ça a coïncidé puisque tu vois le podcast a presque 2 ans,
ouais.
Donc pendant sa grossesse à elle, j'étais son frère dans la nuit, hein, on va dire, sa référente number one. Et donc, elle m'appelait, elle me sollicitait énormément. Bon, déjà, on est très proches, hein, donc c'était pas très compliqué. Mais on en a énormément parlé. Et je me suis rendu compte à cette occasion, à l'occasion de ce coaching de grossesse, qu'elle n'avait pas les informations du tout.
Ouais.
En tout cas, très peu, pas assez. Et elle me disait, mais si toi, tu ne m'avais pas dit ça, personne ne me l'aurait dit, en fait. Et ça nous énervait, mais au plus haut point, on était là, mais putain, mais c'est pas possible. Mais je lui disais, mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent, en fait, au cours de préparation?
Ouais, puis c'est tellement important d'arriver préparé à son accouchement, ça change tout. Enfin...
Franchement, ils nous apprennent des trucs très académiques, mais on rentre pas dans les détails, on rentre pas dans le concret, quoi. Bon, et en fait... À l'époque où elle était enceinte, il y a eu une espèce de vague de baby-boom autour de moi où je me suis retrouvée du coup un peu référente de plein de copines, de cousines et de ma sœur. Et toutes me disaient la même chose. Donc, voilà, l'énervement est monté. Et en même temps que l'énervement, du coup, l'envie que d'y remédier, en fait, ouais. Et de remédier à ce problème. De me dire, non, mais attends, ça suffit, quoi. Ouais. On arrête, là. On arrête de pas dire les choses concrètement. On arrête de pas transmettre l'info. Stop. Donc, je vais me servir du podcast pour en parler.
Sachant que tu as eu une révélation en écoutant dans ta voiture une Australienne.
Oui.
Et
oui,
c'est oui. Là où tu t'es dit, c'est ça ce que oui. Je veux faire.
Bah, c'est-à-dire que j'écoutais donc plein de podcasts et un jour, une nana que je suis sur Instagram a répondu à un podcast de maternité. Et bon, il se trouve que cette fille est Australienne, donc elle habite vraiment à l'autre bout du monde. Et quand elle a raconté sa maternité, je l'ai sentie très proche, alors qu'elle est très loin. Ouais. Et je l'ai sentie très proche parce qu'elle me parlait de choses que j'ai pu vivre aussi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, on partage toutes les mêmes choses et c'est universel. Et on est reliés, nous, toutes les mères, toutes les femmes... on est relié par cette envie de maternité, par cette expérience de maternité, par cette désillusion parfois de la maternité et par les grands bonheurs que nous apporte la maternité. Mais en tout cas, il y a, ouais, on est relié par des fils invisibles qui constituent une espèce de ouais de source aussi de d'informations et de liens. Hyper fort en fait. Et moi ça je l'ai ressenti de manière ouais très forte, très profonde. Et donc bah comme je marche beaucoup encore une fois à l'instinct et au coup de cœur et avec mes tripes, bah j'ai senti que c'était ça en tout cas qu'il fallait que j'explore sans du tout savoir dans quoi je m'embarquais. Mais en me disant j'ai un sujet qui me passionne. Ouais. J'ai un média que j'adore et qui gagne à être connu parce qu'à l'époque, les podcasts en France n'étaient pas du tout aussi présents ouais. qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, je sentais que c'était qu'il y avait un truc à faire. Donc, je l'ai fait.
Donc là, le soir, tu rentres, t'entends dans ta voiture le podcast de Courtney. Tu rentres,
Courtney
ouais. Et là, tu dis go, j'y vais, je me lance, un sentiment d'urgence.
Ouais. Ouais, ouais, bah, je crois qu'une semaine après, j'avais le matos. Oui, parce que c'était au mois de novembre, c'était au mois de novembre 2018, cette espèce de déclic-là. Je me souviens, j'ai eu un micro à Noël. je me suis acheté tout le matos et tout. Je me suis formée à un logiciel de montage. Bon, je savais déjà monter parce que... Quand tu fais du casting, tu montes les interviews et tout ça. Je savais faire des interviews.
Ouais.
Donc, en fait, ça regroupait un peu
tu
tout ce que je savais.
Tu savais caster les bons profils aussi.
Je savais, voilà, a priori, trouver les bons témoins. Donc, ça ne me demandait pas un investissement déjà financier trop grand. Et ça, par contre, ça nécessitait un investissement en temps. Ça, c'est sûr. Mais bon, je l'ai trouvé, le temps, et j'ai commencé à interviewer... deux femmes très proches de moi, puisqu'il s'agissait de ma cousine et d'une de mes meilleures amies, la marraine de mon fils. Et je me suis fait un peu la main avec elle.
Ça t'a plu direct ?
Et ça... Ouais, ça a fonctionné. En fait, tout de suite, j'ai éprouvé l'émotion pure, tu vois, du truc où tu te dis « Ah ok, bon, bah, c'est bon. »
Go, hein.
C'est bon, ouais, ouais, ouais. Ouais.
T'as fait écouter tes premiers épisodes à d'autres personnes pour avoir un regard extérieur ? Ou t'étais tellement convaincue qu'en fait, il n'y avait même pas besoin ?
Je crois pas.
Non ?
Attends, mais tu me poses une colle. je ne crois pas. Ou en tout cas, pas dans le but d'avoir un avis.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
J'étais convaincue, en tout cas, que je voulais sortir ces premiers épisodes. D'accord. Après, ça plaît pas. Ouais. Évidemment, j'étais pas du tout persuadée que ça allait plaire. Mais moi, en tout cas, ça me plaisait.
D'accord.
Donc, j'avais envie de les mettre en ligne tels quels. Je l'ai fait écouter... j'ai fait écouter à mon mec, qui s'est trouvé captivé. Donc, j'étais là, bon, bah écoute, si ça marche
cool.
sur toi, déjà, c'est bon signe. Et puis, en fait, très vite, j'ai enregistré... j'avais trois épisodes Et j'ai mis en ligne 3 épisodes d'un coup.
Ouais.
Parce que moi, j'étais très frustrée sur les podcasts que j'écoutais de ne pas avoir assez d'épisodes en stock, ouais, tu vois. Et donc, je m'étais dit, bon, au cas où ça prend, au moins, il y aura 3 épisodes et ça me laissera un peu le temps de voir venir, tu vois, pour la suite. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai mis ces 3 épisodes en ligne et puis, bah, très vite, j'ai eu des retours, quoi. Ouais. Très vite, j'ai senti que la mayonnaise prenait.
Donc là, tu bossais encore chez TF1.
Ah ouais, ouais.
Et donc, t'as enregistré le soir, t'es allée chez les mamans.
Oui, oui, oui. Ah bah oui, j'étais... j'avais une double vie,
ouais,
vraiment. La double vie totale, voire la triple vie, puisque je suis quand même maman.
Maman aussi, ouais.
Donc, c'était très, très organisé. C'est-à-dire que je bossais chez TF1 de 10h à 20h, enfin 10h, 19h30. Bon, et puis certains soirs dans la semaine, effectivement, étaient consacrés à l'enregistrement des épisodes. Donc j'allais chez ces femmes que je ne connaissais pas, pour ainsi dire, ou en tout cas via des copines de copines, ou bien via Instagram. Mais Instagram, c'est pas la vraie vie, hein, ouais, on se connaît pas. Donc, mais bon, il transparaît quand même beaucoup de choses sur Instagram. Il y a certaines femmes qui se livrent beaucoup et c'est vrai que moi j'ai été d'abord vers celle-là avec qui je me sentais des affinités et dont je me sentais proche. Donc en fait quand j'arrivais chez elle quelque part j'avais quand même l'impression de les connaître, ouais, un peu, tu vois. Et voilà, et puis très vite je me suis sentie à l'aise dans, ouais, l'exercice.
Et tes enfants, ils ont réagi comment le fait que tu sois de moins en moins là le soir ?
Bah ouais, ça a été un peu compliqué. Mon mec a beaucoup pris le relais, franchement. Ouais. Il a été
un super soutien.
Ouais. Ouais, bah c'était un peu indispensable parce que c'est vrai que quand tu rajoutes, en plus de ton job qui est déjà très prenant, quand tu rajoutes des heures d'enregistrement et de montage, ça fait beaucoup. Donc oui, j'ai été un peu moins là, mais quand même là, hein,
ouais,
faut pas exagérer, j'étais quand même pas mal là. Et puis je bossais aussi beaucoup quand il dormait, hein, ouais, donc ça, il s'en rendait pas trop compte. donc j'ai beaucoup moins dormi, mais c'était pour la bonne cause. Et puis bah, comme te disent tous les entrepreneurs... quand tu fais un projet qui te passionne et que c'est ta boîte et que c'est ton truc, enfin à l'époque c'était pas du tout ma boîte, hein, c'était rien, c'était juste une passion,
un side project,
mais quand t'es porté par quelque chose, tu le fais, tu comptes pas tes heures. Ouais. Bon, et puis moi très vite il y a eu une réponse de l'autre côté, c'est-à-dire que je postais mes épisodes et j'avais des retours.
Ouais, donc, ce qui est magique.
Et ça, il n'y a rien de mieux pour te motiver et t'encourager à bosser nuit et jour. Quand tu as des retours de nanas qui te disent « Oh mon Dieu, mais c'est extraordinaire, mais jamais j'aurais cru qu'il y avait d'autres femmes qui avaient vécu ça, je m'y retrouve tellement, et merci, 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 merci. » En fait, je me suis pris un shoot de merci.
Ouais.
En fait, depuis que j'ai commencé ce projet, c'est dingue en fait d'être autant remercié. Ça ne devrait pas. Enfin, c'est...
si.
Ouais, mais franchement, parfois, je me dis, mais c'est dingue en fait. Bon, c'est un moteur, hein, évidemment, mais il y a un truc aussi quelque part où il y a un endroit où je me dis, c'est fou que ce soit qu'elle trouve en fait des réponses dans ce podcast et pas ailleurs, tu vois. Il y a quand même un truc qui dysfonctionnement.
Qui est pas normal. Ouais. Après, chacune vit la chose différemment et la préparation à l'accouchement.
Bien sûr.
Il y en a qui vont prendre juste le truc standard de la clinique, de l'hôpital. D'autres qui vont dire, moi, je vais essayer la sophro. Enfin, après, il y a aussi une partie aussi curiosité et puis aussi entourage, parce que si personne t'en parle, tu sais pas.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut pas compter que sur la curiosité des femmes enceintes. Tu vois, les femmes enceintes devraient être plus informées.
Clairement.
À la base, même si elles sont curieuses, tant mieux si elles sont curieuses et qu'elles veulent en plus explorer, avoir des projets de naissance, avoir des trucs. Moi, je trouve ça formidable. Mais si tu veux, la formation de base, elle devrait être plus complète, en fait.
Je suis d'accord. Tu vois, j'en ai fait les frais, donc je suis d'accord. Ouais, voilà. Ouais.
Donc, bon, c'est ça, c'est là où il y a, je trouve, un dysfonctionnement. Bon, après... malheureusement, le personnel médical est débordé et elles n'ont pas toujours le temps aussi de...
Et puis mal formées aussi sur certaines
parties. Oui, ouais, bien sûr. Donc voilà, écoute, en tout cas, tant mieux. Elles ont trouvé des réponses à leurs questions dans ces témoignages. Elles ont trouvé voilà, des sœurs d'expérience. et elles se connectent d'ailleurs entre elles. Hein, ouais. Mes héroïnes, je les appelle, celles qui témoignent. Elles répondent aussi à celles qui les sollicitent après la diffusion de l'épisode.
Super.
Donc, ça fait une super belle communauté.
Génial. Ouais. Donc là, tu travailles encore chez TF1, tu fais ça le soir. Et en fait, un jour, tu te dis, mais en fait, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc, tu vas voir ton boss et tu lui dis, moi, j'aimerais un part-time.
Oui, alors ça a commencé comme ça, effectivement. J'ai commencé à réclamer un 4/5e.
Ouais. En expliquant que c'était ça ou...
Ah oui.
Ouais, c'était, au début, c'était un peu secret. Tu l'as quand même finalement dit assez rapidement.
Non,
après,
j'en ai parlé assez vite. Bah, en fait, moi, je bossais avec des gens qui étaient des amis. Hein,
ouais,
donc, en fait, je voyais pas l'intérêt de le cacher. Ils voyaient bien que j'étais en ébullition sur autre chose. Et puis, ça me faisait plaisir aussi de leur en parler, de partager ça avec eux. Et ils ont d'ailleurs été d'un grand soutien. Hein. Ils étaient hyper enthousiastes. Donc ça n'a jamais posé de problème. Le 4/5e, ils me l'ont accordé volontiers. Et puis, ils étaient eux-mêmes enthousiastes. Vraiment, il y avait un truc de... Waouh, c'est cool. Bah, c'est quand même un média, tu vois. Alors, c'est pas de la télé, mais c'est du son, mais c'est pas grave. C'est quand même, on n'est pas très très éloigné. Donc ils étaient même curieux de savoir ce que ça allait donner, tu vois. Donc ils m'ont toujours beaucoup soutenue. Donc j'ai eu ce 4/5e qui a effectivement beaucoup changé les choses. Ouais. Donc j'avais tous mes mercredis. C'était extraordinaire. Quand tu bosses depuis 6 ans non-stop, du lundi au vendredi, avec des horaires, des gros gros horaires, je te jure que le jour où t'as ton mercredi, c'est...
Tu respires.
Oh là là. Donc ça, c'était génial.
Et financièrement, t'as pu t'y retrouver
Bah, en fait, financièrement, au même moment, j'ai commencé un peu à monétiser, tu vois, le podcast. Donc ça, tout ça, ça a été...
Ça s'est bien géré.
Oui, bon.
T'as attendu que de monétiser pour te dire je demande mon 4/5e ou finalement c'est les...
Non, il y a eu une période un peu charnière où effectivement ça s'est senti dans la trésorerie familiale. Mais bon, voilà, tu fais avec. Hein, voilà,
quand t'as envie, il faut y aller. Quoi.
Voilà, exactement, tu fais des concessions. En parallèle, les podcasts ont commencé à émerger en France et donc on a commencé à s'intéresser à mon cas et au fait que je générais quand même de grosses écoutes.
Ouais. T'as combien d'écoutes maintenant par épisode, à peu près?
Écoute, à peu près entre 50 000 et 100 000.
D'accord, génial,
Donc, c'est beaucoup. Et c'est vrai que du coup, les marques ont commencé à se rendre compte qu'avec une communauté très puissante, très engagée et très ciblée,
clairement.
Ça pouvait, peut-être qu'on pouvait faire affaire, tu vois. Moi, j'ai vu débarquer cette émergence de la monétisation avec beaucoup de joie, évidemment, parce que là, je me suis dit, OK, là, il y a peut-être moyen d'en faire un business. Chose qui n'était pas du tout dans mon esprit à la base. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, ça devenait très concret. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir envisager de prolonger le 4/5e, d'élargir le 4/5e à carrément un full-time, en fait. Ça a été possible. Donc,
combien de temps après, du coup, tu as quitté TF1, définitivement?
Eh bien, un an après.
D'accord.
En fait, en septembre, j'ai démarré au 4/5e et en juillet, je suis partie. Donc, j'ai été une année calendaire, si tu veux. Une année, on me dit calendaire, parce que là, je ne sais pas. En fait, de septembre à juillet, au 4/5e.
D'accord.
Et en juillet dernier, je suis partie définitivement.
Donc là, tu as pu t'arranger simplement avec ton... Tu as pu avoir le chômage ?
Oui.
Ouais. Donc ça, c'est un vrai plus. Ouais. Qui...
J'ai pu négocier effectivement une rupture conventionnelle. Ils ont été très compréhensifs. Ouais. Voilà, bon, c'était pas évident non plus, hein, parce que tu pars pas comme ça du jour au lendemain pour un projet comme ça. Bon,
c'était quoi tes...
Il a fallu leur expliquer. Il a fallu les convaincre. Ouais. Et puis, ils ont compris. Ils ont fini par comprendre. Et je les en remercie, franchement, parce que c'est chouette de... Parce que ça change tout, en fait, de partir... avec le chômage ou pas.
Bah, c'est
donc,
sûr.
Ça permet de pouvoir monter son business plus sereinement et vraiment c'est pas la même.
Qu'est-ce qui a été ton déclic pour te dire allez ça y est je bascule sur un temps plein pour Bliss?
Bah, le jour où j'ai commencé à recevoir plus de mails pour Bliss que pour TF1, tu vois. Ma boîte mail Bliss était pleine et je n'arrivais même plus à traiter mes mails. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Enfin, il faut que je m'y consacre plus. Il y a une telle demande et il y a un tel engouement autour de ce projet qu'il y a plein de choses à faire autour, tu vois. Notamment, enfin, sur le podcast et peut-être d'autres déclinaisons ou peut-être, enfin, je sais pas, il y avait, je sentais que qu'il se passait quelque chose. Et puis il y a la plateforme Cybelle, donc qui m'a aussi approchée pour qu'on réfléchisse à un partenariat. La Cybelle, donc c'est une plateforme de podcast. Qui est un peu le Netflix du podcast, si tu veux, qui propose des contenus originaux et des contenus que tu peux trouver ailleurs. Mais ils ont, enfin, leur grand atout, c'est de proposer des contenus inédits de fiction, documentaire. Voilà, il y a plein de choses, de témoignages aussi. Et voilà, et ils m'ont proposé qu'on travaille ensemble. Et donc, du coup, depuis ce partenariat, tous mes épisodes sortent en avant-première sur la plateforme Cybelle.
D'accord. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle vie qui commence.
Ouais.
Super. Et là, donc, tu as toujours vu Bliss comme une marque dès le début? Non, c'était...
Non, pas du tout.
Tu...
Non, moi, c'était... Je te dis, c'était juste le titre de mon podcast.
Et pourquoi Bliss, d'ailleurs?
Ah bah Bliss, alors déjà j'adore le dire, tu sais, c'est comme, je dis souvent, c'est comme le prénom de ton enfant, tu sais, il faut pouvoir le dire 200 fois par jour et ne pas en être lassé, donc faut se le mettre en bouche, et puis si c'est un mot qui sonne bien, qui te plaît, voilà, c'est que c'est le bon. Et puis Bliss c'est la béatitude, c'est ce moment suspendu de bonheur pur, quand tu rencontres ton enfant, tu vois, peu importe ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après, ou même peu importe la difficulté de ton accouchement, il y a quand même un moment comme ça où tu rencontres le regard de ton enfant et où ça dépasse tout, quoi, ça transcende tout. Donc voilà, j'aimais bien ce mot, et puis stories, bah parce que c'est des histoires de vie, c'est des tranches de vie, quoi. Et qui sont à la fois très personnelles et à la fois qui parlent à tout le monde. Donc voilà, Bliss Stories, c'est venu comme ça, après un brainstorm avec une personne aussi qui a beaucoup compté dans la mise en place de Bliss, qui s'appelle Aurélia, qui est une fille avec qui je travaille, qui était vraiment mon bras droit chez TF1. Et Aurélia, elle a été la... vraiment ma confidente des débuts, tu vois. C'est d'ailleurs elle, parce que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est elle, moi j'avais Bliss, et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi tu rajoutes pas Stories? Et je lui disais au début, je disais, Bliss Stories, c'est un peu difficile à dire et tout. Et puis en fait, je me suis dit, et puis on se voyait tous les jours au boulot, tu vois. Donc c'était vraiment... c'était avec elle, on a refait le monde et on a refait le monde de nos vies professionnelles aussi, parce qu'elle aussi a changé de vie. Et on était dans une émulation comme ça, très très forte. Et je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Ouais, voilà. Et Bliss Stories, c'est venu comme ça. Mais à la base, c'était juste le titre d'un podcast qui me plaisait bien, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble plus à une marque.
Du coup, aujourd'hui, il y a quoi derrière Bliss Stories? Donc, le podcast, évidemment.
Ouais. Donc depuis le mois de septembre, là, depuis 6 mois, effectivement, j'ai monté ma boîte. Mmh. Donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Bliss Studio, tu vois, qui regroupe donc le podcast. Bientôt un livre.
Génial. Qui sort quand?
Alors bientôt. je n'ai pas de date d'ailleurs. Je n'ai pas de date exacte, mais incessamment.
Qui raconte du coup les histoires de toutes ces femmes extraordinaires?
Oui, alors en fait, je voulais pas faire un copier-coller du podcast, hein, c'était pas le but. Le but, c'était de proposer un guide et un recueil de témoignages. En fait, c'est un livre un peu hybride entre le guide et le recueil de témoignages. Et évidemment, tous ces épisodes sont une mine d'or d'informations et d'expériences brutes, quoi, de real life. et donc, je voulais que ça donne envie d'écouter les épisodes, et je voulais aussi que les podcasts donnent envie de lire le livre. Enfin, tu vois, tout ça est très complémentaire. Et normalement, en tout cas, moi, j'ai tout fait pour que ça se marche pas dessus, tu vois.
Elle est née comment, cette idée?
Elle est née le jour où une maison d'édition m'a contactée. Ouais. Parce que alors, je t'avoue que moi, j'étais à des kilomètres d'envisager un livre, hein, vraiment. Ouais. Mais écoute, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, on adore ce que vous faites, on adore Bliss, il faut en faire un livre. Ah bon? ouais, pourquoi pas.
T'as jamais écrit? Enfin, t'avais jamais écrit dans ta vie?
Non, j'avais jamais écrit. C'est vrai que c'est un exercice très différent, très... Oh là là, qui m'a demandé beaucoup de... qui m'a demandé beaucoup de concentration et de dévotion, parce que le temps d'écriture n'est pas du tout le même que le temps d'enregistrement ou de montage. Enfin, c'est incomparable. C'est vraiment... tu vois, tu peux mettre 2 heures à écrire une phrase ou 2 heures à écrire un chapitre. Enfin, c'est très bizarre. Tu peux pas tabler sur un certain temps, tu vois. C'est très aléatoire. Mais j'ai aimé cet exercice, vraiment. Et puis j'ai aimé me replonger dans tous les épisodes, quoi. Ça, c'était génial de re-rentrer dedans, de les décortiquer, d'en extraire la substantifique moelle, tu vois, pour les coucher comme ça, noir sur blanc, sur du papier.
T'en as combien aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'ai sorti ce matin le 71e épisode, tu vois, donc ça fait beaucoup, hein, mine de rien. C'est un par semaine depuis un peu moins d'un an. Avant, j'étais à un tous les 15 jours. Et puis depuis que je suis sur Cybelle, là, c'est un par semaine.
D'accord.
Donc c'est un rythme...
C'est costaud.
Intense. Ouais.
Et là, aujourd'hui, du coup, tu es toute seule ou est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide à traiter tous ces mails de candidature pour raconter son histoire?
Oui, je ne suis plus toute seule. Ça a été aussi une décision de la rentrée quand j'ai monté ma boîte. Parce que je pense qu'il faut aussi, encore une fois, se donner les moyens que ça roule et de ne pas être débordée. Donc moi, j'ai choisi d'embaucher quelqu'un en alternance.
Ok.
J'ai travaillé avec ma pépite qui s'appelait Clémence, qui était ma stagiaire en fait chez TF1.
Ok.
Et donc on se connaît, tu vois, on a déjà bossé 6 mois ensemble. Elle a suivi tout mon départ et tout. Et puis elle sait comment je travaille. Donc
elle sait ce que t'aimes.
Voilà. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus fluide, en fait, de travailler comme ça. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Donc, elle, effectivement, elle m'aide au quotidien à traiter les mails, à répondre.
T'en as combien d'emails par jour?
Ah non, mais je peux même pas te dire. J'en ai beaucoup.
Ouais.
C'est des centaines par mois.
D'accord.
Tu vois? Ouais. Donc, c'est vrai que pour bien faire ce travail de traitement, de lecture... on n'est pas trop de deux, on n'est pas trop de deux paires d'yeux et de cerveaux pour tout traiter. Et puis le but est aussi de répondre à tout le monde. Moi, c'était horrible en fait de pas réussir à répondre à tout le monde. Ouais. Je m'en voulais terriblement parce que ces femmes m'écrivent Parfois, quand je les lis, je les vois devant leur ordi, tu vois, vraiment...
Elles mettent tout leur cœur.
Ouais. C'est bouleversant ce que je reçois. Et pour moi, c'était plus possible, en fait, de ne pas leur répondre, ouais. de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc voilà, maintenant, on a remédié à ça. Et puis, ça me permet d'avoir une bien plus grande visibilité, en fait, sur... les centaines de témoignages, de sujets à explorer,
ouais.
tu vois. Et puis voilà, de trouver la personne qui va incarner tel ouais. ou tel sujet.
Ouais. ouais, c'est ça son enjeu, c'est que finalement, t'as ouais. les sujets et savoir qui va être...
Exactement, bah, c'est du casting, hein. ouais. enfin, c'est du casting déguisé, c'est trouver la voix, en fait, qui va pouvoir en parler le mieux.
Porter ce sujet-là, ouais.
Et porter le sujet pour que toutes les autres femmes qui vivent la même chose se retrouvent, comprennent, aient les bonnes infos. Voilà. Donc, c'est vrai que tu peux parler tellement différemment d'un même sujet.
Clairement.
C'est bien d'avoir la meilleure voix possible pour le faire, quoi.
D'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'avais dit quand je t'ai contacté il y a 2 mois où tu m'as dit, tu sais, le sujet est traité notamment avec les déviations qui t'avaient interviewé.
Ouais.
Et en fait, donc j'ai écouté les déviations, évidemment, l'épisode que tu as enregistré avec eux. Et en fait, pendant tout l'épisode, j'étais là, mais moi, j'ai envie de poser cette question. Et c'est vrai qu'en fait, chacun a un regard différent sur une thématique et clairement des podcasts sur différents sujets, sur un sujet donné, il y en a plein.
Mais oui.
Et c'est ce qui compte, si finalement...
Tu peux le traiter la personne derrière. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
C'est ça.
Tu vois, il y a plein de podcasts sur l'entrepreneuriat, il y a plusieurs podcasts sur la maternité, mais on a toute notre patte ouais. et... Tous et toutes notre patte et notre ton
et la personnalité
qui nous est propre. Donc ouais. Chacun fait comme
il entend.
Il le sent, ouais, il l'entend.
Donc là, du coup, dans les nouveaux défis, donc il y a eu le livre. Donc t'as fini de l'écrire, ça y est.
Presque.
Ok.
Presque. oui. On est vraiment sur la fin là.
Ouais.
Quand même, hein. Oui. Et puis, écoute, plein d'autres projets dont je ne peux pas te parler pour
D'accord.
l'instant, mais ça bouillonne.
Ouais.
Ça bouillonne et puis, comme tu l'as compris, moi, je suis toujours en train de voir le coup d'après. Même si il n'est pas question du tout d'arrêter le podcast, j'ai envie, évidemment, d'aller explorer d'autres territoires Et voilà, et maintenant que je suis en full time sur ma boîte, je peux le faire. Donc c'est super.
Est-ce que dans le choix de changement de vie, tu as eu des renoncements ?
Non, au contraire. Enfin, si, tu renonces forcément à une stabilité, tu renonces à une tranquillité d'esprit, ça c'est sûr. Parce que quand à 40 ans, tu renonces à un CDI, c'est sûr que faut y réfléchir à deux fois. Mais pour moi, c'est pas un renoncement en fait. Pour moi, au contraire, c'est je m'offre une liberté.
Ouais.
Plutôt que de renoncer à une stabilité. Mais bon, après, ça dépend de chacun. Non, pour moi, c'était pas renoncer. Non, c'était au contraire. C'était vraiment m'offrir cette vie sur mesure, cette vie professionnelle sur mesure.
Ouais. Ouais. En fait, tu te crées ton métier.
Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est très marrant parce que depuis donc, quelques mois, quand on me dit, tu sais, dans des trucs administratifs, quel est votre métier ouais. Je dis podcasteuse. Et là, on me regarde, genre, excuse-moi, c'est pas vraiment. Je dis oui, c'est un nouveau métier. Mais c'est vrai que, tu vois, sur la ligne profession, quand tu mets podcasteuse, ça fait bizarre, quoi. Y a plein de gens qui te regardent un peu de travers en se demandant ce que tu fais vraiment dans la vie, quoi. Et pourtant, c'est chouette, c'est un nouveau métier et je suis très fière qu'il existe et je suis très fière qu'il y en ait de plus en plus qui arrivent à en vivre parce que c'est ça le nerf de la guerre hein, quand même. Mais, mais j'y crois, je suis sûre que l'industrie du podcast ne va faire que grandir et qu'on va avoir une vraie place dans l'univers médiatique.
Et dans, donc là, tu as quand même eu un parcours de vie qui est super riche. Est-ce que ça a un impact sur la façon dont tu élèves tes enfants?
Oh, certainement, certainement. Mes enfants ont une maman qui travaille beaucoup. Oui, ça c'est sûr. Donc ils ont la valeur travail qui coule dans leurs veines, hein, je pense. En tout cas, je l'espère. Mais c'est une fierté. Ils ont, enfin, disons que j'essaye. Hein, je dis bien j'essaye de ne pas trop culpabiliser. Parce que la contrepartie hein, d'une vie comme ça, sur mesure, où tu fais ce que tu veux quand tu veux, c'est que du coup, bah, t'as pas d'horaire, t'as pas vraiment, enfin, tu t'arrêtes jamais vraiment de bosser. Tu vois, pendant les vacances, là, j'avais toujours mon ordi pas loin, les épisodes continuent de sortir toutes les semaines, l'été dernier, pareil, enfin, tu vois, j'ai pas du tout coupé, par exemple, l'été dernier. Donc ça, ça nécessite quand même une vraie discipline. Donc, oui, ça, parfois, il râle.
Ils me disent, et toi, tu le vis comment?
J'essaye justement de ne pas trop culpabiliser. Mmh. Mais parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Parfois, je culpabilise. Je me dis, putain, c'est vrai. J'ai pas fait ça pour leur renvoyer le signal d'une maman qui travaille encore plus. Et à la fois, c'est différent, en fait. Mon temps avec eux est différent parce que je peux me libérer parfois à des horaires improbables qui étaient inenvisageables avant. Genre sortie d'école, 4h30. Jamais je n'étais à la sortie de l'école. Là, de temps en temps, ça arrive. Je les emmène à leurs activités. Enfin, je ne le fais pas tout le temps, mais je peux le faire. Je fais des sorties scolaires. Je les récupère quand ils sont malades. Bah, c'est moi qui les garde. Il y a la grève, je les garde. Ça, c'était des trucs qui n'arrivaient jamais. Mmh. Et d'ailleurs, c'était la tannée, je jonglais avec les babysitters, ma mère, mes sœurs. Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, ok, bon, bah, t'es malade, tu restes avec moi, ça n'est pas grave. Ou bien, t'es un peu chafouin, je sens que t'as hyper envie que je vienne te chercher à l'école. Bah, tu sais quoi, je vais venir te chercher à l'école et on va profiter. On va se faire un 16h30, 18h30, on va kiffer. Ouais. Et puis après, je vais me remettre à travailler plus tard, tu vois. Donc ça, c'est chouette.
Ouais.
Donc en fait, mes enfants, ils comprennent, ils râlent de temps en temps, mais comme tous les enfants de parents qui travaillent. Et voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Et à la fois, moi, je m'éclate tellement. Ils le ressentent aussi, les bonnes vibrations, tu vois, et la bonne énergie. Et ils sont fiers de moi aussi, tu vois, je le vois. Parfois même ils écoutent des mon fils parfois il lance des épisodes, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais j'écoute please. J'ai non peut-être pas cet épisode là par contre. Mais du coup ils sont hyper hyper informés, hein. Ils sont incollables sur l'accouchement, la grossesse, c'est chouette, enfin moi je suis très contente qu'ils s'intéressent à ces sujets-là, même vraiment mon fils il est je te dis il est incollable, il adore. Et pourquoi pas, enfin voilà, ça fait aussi partie de les intégrer comme ça aussi à l'aventure, et ben ça leur fait aussi mieux connaître ce que je fais, et
c'est chouette,
ouais c'est bien.
Et si on te dit Clémentine, t'as de la chance en fait avec tout ce qui t'arrive, comment tu réagis?
Je dis oui, t'as raison, ouais bien sûr. J'ai beaucoup de chance, j'en suis consciente. Après cette chance, je l'ai construite, elle n'est pas venue comme ça, elle n'est pas tombée du ciel, mais en tout cas j'ai tout fait pour qu'elle existe, oui ça c'est sûr. Aujourd'hui oui, quand on me dit t'as de la chance, je dis bah ouais franchement ouais c'est vrai, j'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi, que je me suis fabriqué sur mesure, que j'aime passionnément. J'ai la chance de travailler avec des gens que j'ai choisis, que j'admire, qui me stimulent, avec qui j'ai envie d'imaginer plein de choses. J'ai la chance d'avoir pu préserver un équilibre familial qui aurait pu voler en éclats, honnêtement, parce que quand tu changes de vie comme ça, ton équilibre familial en prend un coup, hein. Enfin, inévitablement, on est passé par des phases où moi j'étais sous l'eau totale quand j'avais ETF1 et Bliss. Franchement, c'était chaud. avec mes enfants, c'était chaud. Avec mon mec, c'était chaud. Je me disais, putain, est-ce que je vais réussir à tout faire, à tout mener de front? Ouais, bien sûr, je me suis posé la question.
Mais en fait, tu croyais tellement et tu croyais tellement ton couple aussi que tu t'es dit, on va arriver à remonter.
Ouais, j'avais confiance. Je suis quelqu'un qui a globalement assez confiance en la vie.
D'accord.
Bon, alors parfois, ça me joue des tours. Parfois, j'ai trop confiance et je suis déçue. Et puis, à l'inverse, et heureusement, le plus souvent, j'ai raison d'avoir confiance. Et,
quand est-ce que tu as été déçue ?
Je sais pas. T'es déçue par... parfois quand tu te donnes à fond pour un truc et puis que t'as pas le retour que t'attendais, tu vois. Ça, c'était plutôt dans mon autre vie, professionnelle. Parce que moi, j'ai jamais rechigné à la tâche, tu vois. Je suis une grosse bosseuse. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'être stimulée. Ouais. J'ai besoin d'être tirée vers le haut. J'ai besoin de sentir qu'il y a du répondant en face, quoi. Et j'ai besoin de bosser avec des gens qui me portent et auprès de qui je sens la même énergie. Ouais, qui m'encourage ou que moi-même j'encourage. Enfin, en tout cas, où on s'encourage mutuellement, tu vois, où il y a un truc de... Où il y a un ping-pong positif, tu vois. Donc ça, oui, j'ai pu être déçue parfois par des collaborateurs avec qui c'était pas exactement... On n'était pas exactement alignés. Mais c'est pas grave, t'apprends, tu te relèves et puis voilà et tu bon, heureusement j'ai pas perdu la niaque mais voilà c'est surtout ouais heureusement les déceptions n'ont pas été trop nombreuses, je t'avoue.
Ah, bon, tant mieux. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Je suis fière d'avoir pu libérer la parole autour de sujets tabous. Honnêtement, je suis fière des messages que je reçois. Je suis fière des émotions que je provoque. C'est pas moi qui les provoque. Je suis fière de...
Que tu délivres.
Oui, que c'est pas moi qui les provoque, mais c'est les témoignages que je vais chercher, quoi, en tout cas. Parce que les émotions, c'est quand même chouette de ressentir des émotions. Hein. Quand tu ressens des émotions, tu te sens vivant, tu te sens vibrant, tu te sens... Oh, il se passe des choses, quoi. Il y a un truc, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs. Moi, je suis une grande émotive. Je pleure beaucoup, soit de tristesse, soit de joie. Je chiale pour un rien. mais ça me fait vivre. Ça me fait du bien, en fait, de vivre mes émotions. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir les transmettre, qu'elles puissent passer par ma voix, par les voix de toutes ces femmes qui parlent d'elles, qui parlent de leur expérience et qui partagent, quoi. C'est vraiment le partage. Je suis fière de cette communauté qui existe autour de Blisteries. C'est vraiment ce que je me dis tous les jours. Et j'espère qu'elles vont continuer à être aussi fidèles et aussi enthousiastes et à relayer, en fait, parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est le bouche à oreille. Quand tu bénéficies d'un bouche à oreille positif, t'as tout gagné.
Ouais. C'est la clé du succès. Ouais, en effet. Si tu rencontres des personnes et qui te disent quel est le conseil que tu aurais aimé avoir dans ta vie ou pour le lancement de Bliss, mais qu'on t'a pas donné.
Bah écoutez sa petite voix, hein. Ça revient, on en revient toujours à ça. Mais moi, si j'avais écouté honnêtement certaines voix extérieures, j'aurais pas fait ça comme ça.
Parce qu'on te disait quoi ?
Ben, on me disait, oh, t'es sûre, grossesse, accouchement, c'est quand même un peu trash. Les gens vont pas avoir envie de rentrer dans cette intimité-là, pardon. Fais un truc plus général, plus global sur l'éducation, la maternité en général, un truc plus mainstream, tu vois. Et puis, une heure, c'est long. On va se faire chier de parler une heure de césarienne et d'épisiotomie et de baby blues. Enfin, franchement, t'es sûre que t'as envie d'aller dans ce créneau-là ? Et moi, bon, je disais, bah, en vrai, Moi, je pense que oui. Bon, t'as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi, je pense que oui. Donc, j'ai tenu bon et j'ai fait à ma façon. Voilà. Et il s'est avéré que ce que moi j'avais envie d'entendre et de questionner, et ben en fait, s'est avéré plus général que je ne pensais. Ouais. Mmh. Touché beaucoup de monde. Ouais.
Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ?
Bonne question. À qui j'ai envie de dire merci et pourquoi ? Attends, ça me demande un petit peu de réflexion, pardon. C'est peut-être une réponse très basique, mais j'ai envie de dire merci à mes parents. Et parce que je te parlais tout à l'heure de la confiance, et enfin de la confiance que j'ai en moi, mais qui est vraiment une transmission d'enfant à parent, et de parent à enfant, pardon. Et la confiance, pour moi, c'est un socle de démarrage dans la vie qui est, si elle est solide, cette confiance, elle peut t'emmener n'importe où, en fait. Tu peux, avec une confiance en toi, je te dis pas avoir les dents qui rayent le parquet et mettre tout le monde et tout bousculer sur ton passage. C'est pas de cette confiance-là que je te parle. C'est d'une confiance vraiment hyper profonde, d'un truc de confiance en la vie. Voilà. C'est pas spécialement avoir confiance en soi, mais c'est avoir confiance en la vie et de se dire que, bah franchement, au pire, tu te loupes. C'est pas dramatique, tu vas te relever, on est là pour toi, tu seras jamais toute seule, on t'épaulera toujours et nous on croit en toi. Voilà, moi mes parents m'ont toujours dit ça, m'ont toujours dit on croit en toi, quoi que tu fasses, que tu sois stagiaire sur un plateau, à porter des cafés, à faire des photocopies toute la journée, qui est quand même pas forcément ce dont tu rêves pour ton enfant à la sortie de ses études. Je vais aller explorer ça. Et ça, ils le font d'ailleurs pour... ils l'ont fait pour nous quatre. Hein. Ils sont très, très ouverts d'esprit. Et cette confiance-là qu'ils nous ont inculquée, je pense que c'est ce qui fait de nous, je dis nous parce que vraiment, je parle aussi pour mes frères et sœurs, les personnes qu'on est aujourd'hui et je pense qu'on n'a pas peur. On n'a pas tellement peur, en fait. Mais sans être non plus des requins, tu vois. C'est-à-dire que... Et ça, c'est vrai que moi, je leur dis souvent, d'ailleurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que je vois toujours de la fierté dans leurs yeux. Cette confiance, je vais toujours la puiser chez eux, hein, parce qu'elle elle a besoin d'être alimentée. C'est pas genre, tiens, vas-y, je te donne un stock de confiance pour la vie. Elle est alimentée tout au long de notre vie et j'ai la chance de les avoir encore tous les deux là, tout près de moi et très présents dans mon quotidien. Et ça, leur confiance, elle est indéfectible. Je sais que je pourrais demain aller n'importe où dans le monde, refaire ma vie, élever des chèvres ou me lancer dans un tout autre domaine. Ils auront confiance, tu vois. Et voilà, donc s'il y a bien des gens à qui je peux dire merci, c'est eux. Bon, c'est assez basique de dire merci à ses parents, mais pour le coup, là, tu me prends au dépourvu, c'est vraiment... c'est mon socle. Oui.
Super. Merci beaucoup, Clémentine.
Mais je t'en prie, Charlotte. Merci à toi.
Après l'idole des hommes, Laurent Régaraz, alias Chicandier, que vous avez pu écouter dans l'épisode numéro 2, j'ai été très heureuse de pouvoir interviewer l'idole de tant de jeunes mamans. La semaine prochaine, je vous propose un tout autre registre. Je vous emmènerai rencontrer un homme des bois. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou Instagram, Pourquoi pas moi podcast, ou à visiter mon site web, pourquoipasmoi.co. Et j'ai toujours besoin de vous pour vous abonner sur Deezer et Spotify et ou mettre des étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.